Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Guillaume Paul, Good Evening Business.
19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, comme tous les soirs, dans l'actualité de ce lundi soir. Le projet de réforme des retraites qui est donc passé ce matin en Conseil des ministres avec un gouvernement qui est en train de dérouler de nouveaux argumentaires pour tenter d'amadouer l'opinion en quelque sorte. On va voir ça dans un instant avec Corinne Morisseau. Puis on en parlera tout à l'heure à 19h30 avec le leader de Force Ouvrière qui sera avec nous sur ce plateau. On parle bien sûr de Frédéric Souillon. Sinon, en France, faut-il décaler la fermeture des centrales nucléaires à 80 ans? EDF est en train de pousser en ce sens. L'autorité de sûreté nucléaire a répondu ce matin pourquoi pas, mais n'a pas dit oui formellement. On verra ça avec Mathieu Pechverdi. Et puis alors, vous savez que c'est une journée ETI aujourd'hui sur BFM Business. Ben, on en parlera tout à l'heure des ETI avec Fanny Laitier, ex numéro 2 de BPI. Elle dirige depuis 3 ans Généo. C'est une société d'investissement qui oriente, aide, conseille les PME à grossir pour devenir des ETI. Avec les bons experts et surtout avec les bons financiers. Elle nous racontera tout ça dans un gros quart d'heure sur BFM Business. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h. C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc la réforme des retraites, ce projet qui est passé ce matin au Conseil des ministres avec un gouvernement qui essaye par ailleurs de roder de nouveaux arguments pour amadouer l'opinion, notamment la possibilité de durcir encore un peu les règles concernant le fameux index relatif à l'emploi des seniors. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure le député de la majorité Mathieu Lefèvre sur BFM Business.
Peut-être qu'il faut aller plus loin, peut-être qu'il faut aussi être plus coercitif, mais on peut pas d'un côté avoir une politique qui est favorable à l'entreprise, qui évite toute forme de coercition dans la distribution des aides publiques aux entreprises, et de l'autre contraindre les entreprises à embaucher les seniors si elles n'en ont pas le besoin. Oui. En revanche, c'est un changement d'attitude, c'est une question tout à fait pragmatique. Les entreprises, elles doivent changer de regard sur les seniors aujourd'hui. Oui. Et cette réforme, elle va certainement permettre de le faire. C'est ce qu'on appelle l'effet horizon en politique publique, c'est-à-dire que si demain l'âge légal passe à 64 ans, ce que nous souhaitons, les seniors vont rester plus longtemps dans l'emploi. En 2010, le taux d'emploi des 60-64 ans, il était de moins de 20%. Oui. Il est aujourd'hui 35%. C'est donc que les réformes, elles ont un impact sur l'âge au travail et sur le regard que l'on porte sur les seniors.
Voilà Mathieu Lefèvre qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Concernant le sort des femmes, l'étude d'impact qui a fuité aujourd'hui dans la presse nous en dit un peu plus. 1. Elles seront plus touchées que les hommes par le report de l'âge. 2. Leurs pensions augmenteront un peu plus que celles des hommes du fait de cette réforme. Caroline Morisseau nous expliquait tout ça tout à l'heure. Écoutez.
Les femmes seront davantage concernées en fait par le recul de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans. Elles devront travailler en moyenne 7 mois de plus, alors que les hommes, eux, devront travailler 5 mois de plus. C'est le premier enseignement en cause. Hein, celles qui pouvaient partir dès 62 ans à taux plein grâce au trimestre acquis lors de la naissance d'un enfant ne pourront plus partir dès 62 ans, mais devront attendre 2 ans de plus, donc 64 ans pour partir. Conséquence directe, mais cette fois positive, comme elles seront contraintes de travailler plus longtemps, leurs pensions vont augmenter davantage que celles des hommes. Les femmes vont voir leur retraite grimper jusqu'à 2,2% selon l'étude d'impact en fonction des générations, contre 0,9% pour les hommes. Les femmes qui sont particulièrement concernées par les petites pensions seront aussi les principales bénéficiaires de la hausse du minimum de pension. Donc ça, c'est un autre point positif. Et puis, dernier lot de consolation, enfin, les congés parentaux seront désormais pris en compte dans la limite de 4 trimestres. Attention uniquement pour celles qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui pourront partir. Elles seront plus nombreuses, en fait, les femmes, à pouvoir partir de manière anticipée grâce au dispositif carrière longue. C'est l'un des arguments du gouvernement pour nous dire qu'il protège les femmes au travers de cette réforme. Mais attention, cette mesure ne bénéficiera, selon l'étude d'impact toujours, qu'à environ 2000 femmes chaque année.
Voilà donc pour cette étude d'impact qui a fuité ce matin dans la presse et ce projet de loi de réforme des retraites qui a donc été présenté ce matin au Conseil des ministres. Et je vous le disais, on en en reparlera largement tout à l'heure à 19h30 avec le leader de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, qui sera avec nous sur BFM Business. 19h05, en France toujours. Faut-il prolonger la durée de vie des centrales nucléaires jusqu'à 80 ans? Ça, c'est le sujet qu'avait relancé un haut responsable d'EDF jeudi dernier devant l'Assemblée nationale. Eh bien, le président de l'autorité sûreté nucléaire lui a répondu ce matin, pourquoi pas? Mais on va quand même prendre 4 ans pour étudier tout ça. Mathieu Pechberti.
Oui, très prudemment. D'abord, il y a effectivement, EDF doit présenter un dossier pour essayer de démontrer que ces centrales peuvent être exploitées jusqu'à 80 ans. Il faut savoir que en ce moment, depuis l'année dernière, et ça va encore durer de nombreuses années, il y a environ entre 5 et 7, 8 centrales par an qui connaissent des visites qu'on appelle décennales pour passer de 40 à 50 ans. Donc là, EDF est déjà en train d'anticiper pour aller à 80 et entre-temps, il faudra savoir comment on va à 60. Mais bon, il faut constituer un dossier que EDF remettra à l'autorité de sûreté nucléaire fin 2024 et puis l'ASN prendra environ 2 ans pour l'instruire et rendre sa décision. L'objectif, c'est effectivement de porter l'ensemble du parc nucléaire, ou en tout cas les centrales qui le pourront ou le pourraient, à 80 ans. Encore une fois, les centrales les plus vieilles, aujourd'hui, ont environ 40 ans, donc c'est se projeter jusqu'en 2060.
Et pardon, il y a déjà d'importants travaux, le grand carénage pourrait porter 40 à 50 ans.
Voilà, ce fameux grand carénage. Pour le moment, on est à 50 ans. L'autorité de sûreté nucléaire a dit oui pour 50. On sait depuis plusieurs années qu'elle était assez hésitante sur 60 ans, en tout cas que ça se démontre, que ça ne se décide pas comme ça en jetant une pièce en l'air. Et là, EDF surfe un peu sur la relance du nucléaire évidemment en France et dans le monde entier pour tenter le tout. Pour le tout, 80 ans, il y a des centrales nucléaires aux États-Unis qui ont déjà été prolongées jusqu'à 80 ans. Donc, il va falloir regarder ce qui a été fait aux États-Unis et est-ce qu'on peut faire la même chose en France. En partie, oui, parce que c'est en gros les mêmes technologies nucléaires et des réacteurs qui se ressemblent. Le petit bémol, c'est qu'on n'en a pas du tout la même utilisation. Vous savez que depuis plusieurs années, EDF module beaucoup sa production nucléaire pour éviter de trop produire. Provoque pas mal d'usure sur les équipements. C'est en tout cas une interrogation là-dessus de la part de l'autorité de sûreté nucléaire qui se demande comment certains équipements peuvent durer jusqu'à 80 ans alors que à la base, une cuve de réacteur a été fabriquée pour 40 ans. Donc on va voir comment ça se passe.
Voilà Mathieu Pechberti, EDF, qui pousse désormais pour prolonger la durée de vie des réacteurs jusqu'à 80 ans. Quand c'est possible, bien sûr. En France toujours, un petit mot de média parce que c'est officiel depuis quelques secondes. Xavier Niel, eh bien, candidat à la reprise des fréquences TNT de TF1 ou de M6, c'est l'ARCOM qui vient de le faire savoir. Bonsoir Aude Kersulec.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on sait d'ores et déjà des intentions de Xavier Niel dans ce dossier, Aude?
Alors ce projet de candidature, il s'appelle Six, ce qui laisse à penser que c'est plutôt la fréquence de M6 que Xavier Niel vise. M6 qu'il a tenté par deux fois d'ailleurs de racheter. Alors l'ARCOM a fait savoir que ce projet était recevable. Dès l'appel à candidature lancé, le milliardaire avait dit tout le mal qu'il pensait des deux chaînes privées parce qu'elles étaient peu innovantes, pas assez créatives, qu'elles n'investissait pas assez, notamment dans les fictions. Alors en réalité, eh bien quand même, les chances de Xavier Niel sont assez faibles. On voit mal l'ARCOM mettre à terre TF1 ou M6, mais sa simple présence va peser parce que, eh bien, les deux chaînes, elles vont devoir se battre, elles vont devoir mettre peut-être plus d'argent sur la table pour assurer le coup, et ça devrait peser sur leur rentabilité. Et puis Xavier Niel, lui, a tout à gagner dans la manœuvre, affaiblir M6 pour tenter un jour peut-être de racheter la chaîne ou tout simplement préparer le terrain pour de nouvelles fréquences TNT qui vont arriver à échéance d'ici à 2025, qui seront aussi remises sur la table. Alors, on devrait en savoir plus d'ici ces prochains jours. Le 15 février, eh bien, les trois candidats seront auditionnés par l'ARCOM pour cette première remise en jeu des fréquences TF1 et M6.
Car il rêve de bousculer un petit peu le secteur, évidemment, Xavier Niel. Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business. On va aller en Chine. Qui est donc entré hier officiellement dans l'année du lapin à l'occasion de grandes célébrations, le nouvel an chinois à travers tout le pays, les premiers depuis 3 ans, mais bien sûr le Covid était dans tous les esprits. Sébastien Le Belzic est à Pékin pour BFM Business.
Oui, la Chine a repris sa traditionnelle grande transhumance du nouvel an lunaire avec plus de 2 milliards de trajets prévus ce mois-ci. C'est deux fois plus que l'an dernier. Alors c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, le pays était quasiment à l'arrêt. Et donc c'est la première fois depuis 2019 que les familles peuvent se réunir. Ambiance de fête un peu partout dans le pays avec une frénésie de consommation. Vous savez, en Chine, on distribue des enveloppes rouges, des rongbao pleines d'argent liquide pour la fête. Alors forcément, toute la semaine, on va les dépenser. C'est une période de soldes et un pic pour le tourisme. Les hôtels sont pleins dans les principales destinations touristiques du sud du pays. Hong Kong aussi retrouve ses touristes chinois avec 3 millions de personnes attendues ce mois-ci. Et malgré tout, plane toujours le spectre du Covid. Les autorités chinoises ont révélé ce week-end que 80% de la population a déjà été infectée par le Covid et on redoute que ces grandes fêtes du Nouvel An ne provoquent une nouvelle vague meurtrière, notamment dans les campagnes. Des scientifiques étrangers avancent le bilan dramatique de 36 000 décès quotidiens d'ici la fin de cette semaine.
Sébastien Lebelzik à Pékin pour BFM Business. Encore un plan social dans la tech. Cette fois, c'est Spotify qui a annoncé, lui, qu'il allait supprimer 600 postes, c'est-à-dire environ 6% de ses effectifs dans le monde. Son directeur général l'a écrit très clairement à ses salariés. « J'ai été trop ambitieux. J'ai trop investi. Plus vite que la croissance de notre chiffre d'affaires, je cite, le groupe perd de l'argent depuis maintenant quelques années. » On apprend que Microsoft, par ailleurs, va accélérer sa coopération avec le spécialiste de l'intelligence artificielle OpenAI, créateur de ChatGPT qu'on ne présente plus. Microsoft va y investir plusieurs milliards de dollars supplémentaires. C'est la troisième fois que Microsoft investit dans ce groupe. Et puis la polémique dont on parle, LVMH qui renonce donc à instaurer son centre de R&D sur un terrain appartenant à Polytechnique à Saclay. C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré pendant plusieurs mois au cours desquels beaucoup de profs, beaucoup d'élèves auront marqué leur hostilité. Pauline Tadevin nous raconte tout ça.
Du côté des opposants au projet, on ne cache pas sa satisfaction. Un an après Total, disent-ils, ce renoncement entérine l'échec de la stratégie consistant à vendre à la découpe les terrains du campus à des grands groupes. Depuis que LVMH a fait part l'été dernier de son intérêt pour installer son centre de recherche sur un terrain de Polytechnique, des élèves s'y sont opposés, mais le conseil d'administration de l'école a donné son feu vert et début janvier, un recours en justice a été déposé contre cette décision. Le choix de LVMH n'a rien à voir avec la contestation, nous dit-on du côté du géant du luxe qui assure n'avoir jamais caché que ce terrain était une option parmi d'autres et qu'il a choisi un autre emplacement plus approprié, toujours en Île-de-France, d'après nos informations. LVMH qui poursuit son partenariat de recherche avec Polytechnique de 2 millions d'euros par an pendant 5 ans. Bernard Arnault, ancien élève de l'X, ira donc investir ses 100 millions d'euros ailleurs. Un revers pour la direction de Polytechnique qui expliquait récemment vouloir attirer de plus en plus de grands groupes pour faire rayonner son campus au niveau international.
Pauline Tadevin, on apprend que Ford, constructeur américain Ford, va supprimer 3200 postes en Allemagne, essentiellement dans le domaine administratif et la conception. C'est ce qu'indiquait le syndicat IG Metall, suppression principalement sur le site de Cologne, mais aussi dans une moindre mesure sur tous les sites en Allemagne du groupe américain. Il y a une réunion hier, aujourd'hui, entre syndicats et direction de l'entreprise. Et puis l'avertissement très clair du patron de Faurecia aujourd'hui dans la presse allemande, justement. Attention, dit Patrick Koller, attention à la concurrence chinoise sur le marché des voitures électriques d'entrée de gamme. Une voiture électrique chinoise, actuellement, coûte en moyenne entre 8 et 10 000 euros de moins qu'une offre comparable de production européenne ou nord-américaine. Nous verrons, dit Patrick Koller, si les constructeurs européens parviennent encore à gagner cette source. Fin de citation. 19h13. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui a grabillé un petit peu de terrain puisque le CAC 40 a gagné 0,52%. On repasse sur les 7032 points ce soir à la clôture. Bonsoir Sabrina. Sabrina Cogluzzi depuis New York.
Bonsoir.
Pour BFM Business. Ça a l'air d'être plutôt vert aussi chez vous ce soir, Sabrina.
Eh bien, figurez-vous que oui, nous, on repasse au-dessus des 4000 points sur l'indice S&P 500. On est sur un gain de 1,4%, 4029 points, très exactement, pour le S&P 500. Le Dow Jones, de son côté, affiche une hausse de 1%. On est à 33 695 points et le Nasdaq est en tête avec un gain de 2,15%, 11 379 points. Des marchés qui attendent, bien sûr, la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine et qui parient sur un ralentissement des hausses de taux. Le consensus, en tout cas, les professionnels interrogés attendent une hausse de 25 points de base lors de cette prochaine réunion. Voulons savoir plus également sur l'évolution de la politique monétaire dans le courant de cette année, dans une semaine qui sera marquée aussi par la publication de nombreux résultats d'entreprises dans l'aérien, les télécoms, la tech bien sûr aujourd'hui de nouveau sur le devant de la scène avec Salesforce et Elliott Management qui s'invite au capital avec plusieurs milliards de dollars investis dans la société, ce qui pourrait faire bouger les choses. Le titre Salesforce est en hausse actuellement de 3,2%. Et puis on entre la belle hausse AMD dans les semi-conducteurs, plus 8% pratiquement après une note positive de Barclays qui est passée de neutre à surpondérée sur la valeur. Voilà donc pour ce marché américain, belle séance, beau début de semaine. Le Dow Jones plus 1%, le S&P 500 au-dessus des 4000 en progression d'un véritable.
Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve évidemment toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance chez vous à New York du côté de Wall Street. Il est 19h15, on marque une pause. Journée spéciale ETI sur BFM Business. Dans un instant, on sera, alors pas avec une ETI, mais avec celle qui aide les PME notamment à grossir pour devenir des ETI, avec les bons conseils, avec les bons interlocuteurs, avec les bons financiers aussi. Fanny Laitier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, est avec nous dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
Ils font l'écho sur BFM Business à 19h17 et ils aident les entreprises à grossir, à se développer, à aller toujours plus loin. C'est Fanny Laitier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Fanny Laitier.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur que vous avez créé en 2019 avec François Rivollier. Vous êtes avec nous à l'occasion de cette journée spéciale ETI sur BFM Business pour parler alors des ETI. Et on va en parler un petit peu quand même du retard en France en matière de... Il y a combien d'ETI en France aujourd'hui, Fanny, très concrètement ?
Alors aujourd'hui, on a 5400 ETI en France.
Oui.
Si on enlève les filiales de grands groupes, on tombe à un petit 5000.
Et on se fait un petit peu mal si on se compare avec nos voisins européens, allemands, italiens notamment, on va le dire quand même, on est en retard.
Alors oui, globalement, le constat, et ça depuis maintenant un petit moment, est que finalement, on a un retard dans la croissance de nos entreprises. Nos PME sont trop petites. Nos ETI aussi, elles ont souvent moins de 500 salariés.
Une ETI, c'est alors on est au-dessus
une ETI, c'est entre 250 et 5000 salariés.
C'est ça.
Malheureusement, les deux tiers d'entre elles ont encore moins de 500 salariés, donc ce sont des grosses PME finalement.
Ouais.
Là où l'Allemagne en compte 12 000, le Royaume-Uni 8 000, mais des pays comme l'Italie, et notamment l'Italie du Nord, vont avoir 7 000 ETI. Donc effectivement, il y a un enjeu énorme, à doubler au moins le nombre d'ETI en France avec un impact potentiel sur l'emploi en France qui est considérable.
C'est, alors, vous y contribuez, on va venir ça dans un instant. Mais qu'est-ce qui explique ce retard français en matière de déploiement des ETI finalement ? C'est quoi le nœud du problème, Fanny, aujourd'hui ?
C'est un ensemble de facteurs. Effectivement, en fait, peut-être les conditions du développement des entreprises en France et notamment en fait la pesanteur des charges sociales, c'est clair vis-à-vis de l'Allemagne. On part du même chiffre d'affaires. On n'arrive pas exactement au même résultat net. Mais il y a aussi peut-être le rapport au risque des entrepreneurs français qui s'est débloqué, c'est certain. Depuis 10 ans, on voit ces nouvelles générations se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on voit aussi ces ETI qui se transmettent et qui transmettent à de nouvelles générations, effectivement, avoir un nouveau rapport au risque, à l'innovation, à l'international. Et il se passe des choses très intéressantes en ce moment. C'est peut-être le moment des ETI.
Et vous les provoquez. Ok, c'est chaud justement. Alors, je rappelle, donc cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur que vous avez créé en 2019 avec François Rivollier, pardon. Vous êtes passé par Bercy, je le précise, vous avez été directeur adjoint de cabinet d'Arnaud Montebourg, vous avez été numéro 2 de BPI France et vous avez créé Généo. Alors c'est quoi ? C'est une société d'investissement en fait, capable d'accompagner les PME et les ETI. De faire croître les PME vers le stade d'ETI, c'est ça l'idée fondamentalement, Fanny ?
Oui, je crois qu'à Bercy et à BPI France, j'ai eu un observatoire incroyable du potentiel de création de valeur et de création d'emplois qu'on a en France si on arrive à débloquer ces freins à la croissance.
Oui.
Il faut savoir que les ETI sont le premier créateur d'emplois en France. Entre 2009 et 2016, ils ont créé 355 000 emplois pendant que les grands groupes en détruisaient malheureusement 100 000 et que les startups et les petites PME étaient juste à l'équilibre. Comment et donc, c'est le poumon. Comment faire? Eh bien, il faut finalement leur apporter trois choses. Et c'est cette nouvelle forme de capital investissement qu'on appelle le capital entrepreneur, c'est-à-dire des fonds propres longs, patients, du capital humain beaucoup, pour les aider à leur apporter les compétences, l'expertise, l'environnement de conseil dont elles ont besoin. Et puis un écosystème entrepreneurial en région ou dans des filières qui soit accélérateur.
Alors, on va les prendre un par un, ces points. Vous me disiez investissement. Vous les orientez vers les bons investisseurs, les bons interlocuteurs. On a besoin de repères quand on est une PME aujourd'hui pour aller chercher les bons investisseurs, le bon partenaire, finalement, Fanny. C'est ça?
Oui, c'est
ça. On est perdu quand on est chef d'entreprise, bien souvent ou...
C'est pas évident. Hein. Ouais. C'est sûr que le maquis du conseil et le maquis du financement en France, il est difficile à décrypter quand finalement on connaît surtout son métier, ses technologies, ses clients. Et on a voulu, en fait, nous, finalement, avoir un marqueur fort qui est entrepreneurial. On est allé chercher tous ceux qui avaient réussi en France et de plus en plus, on va aller chercher en Europe, ceux qui ont fait fortune par l'entrepreneuriat et qu'on peut admirer,
des Peugeot, de
des Merieux, des Sisley, des Septodon, tous ceux qu'on admire, des Babilou, et dont on se dit, mais voilà, ils ont fait un champion français, ils sont devenus champions européens, parfois champions internationaux. Ces gens-là ont investi chez Généo, nous ont confié, en fait, aujourd'hui 600 millions d'euros à côté d'acteurs institutionnels pour nous dire, allez-y, faites les champions de demain, prenez ceux qui, en France, sont leaders sur leur niche et faites-en des leaders européens. C'est du capital entrepreneur parce que ça n'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi toute cette expérience accumulée de ces entrepreneurs qui vont pouvoir transmettre.
Et vous dites c'est du temps, un petit peu à rebrousse-poil du modèle traditionnel du capital investissement aujourd'hui. On ne se limite pas à 5 ans, là où beaucoup, au bout de 5 ans, veulent récupérer leur mise finalement. On laisse le temps.
Oui,
mais ça, c'est un pari pour vous aussi, bien sûr.
C'est un pari assumé. Généo n'est pas un fonds d'investissement.
Généo
est une société d'investissement et nous avons 99 ans de durée de vie renouvelable. Pourquoi? Pas pour rester 99 ans, je pense que personne ne le souhaiterait, mais juste pour dire que le temps ne doit pas être un problème. On doit pouvoir s'adapter au cycle naturel d'une entreprise. On est dans le service, on est dans l'industrie, les cycles ne sont pas les mêmes. On fait face à un retournement de cycle économique, il faut pouvoir se donner le temps de le traverser. Et à l'inverse, s'il y a des opportunités qui se présentent, et elles sont souvent nombreuses, eh bien, il faut pouvoir accélérer.
Alors, pour le chef d'entreprise, le temps est un problème. Ce qui est aussi un problème et un frein, souvent, c'est la perte d'autonomie.
Oui.
On craint de perdre son autonomie.
Oui.
Qu'est-ce que craint un chef d'entreprise, un patron de PME en venant chez vous ou en s'adossant à un fonds
Il y a l'idée de dire un fonds d'investissement va rentrer chez moi et puis dans 5 ans je vais devoir être obligé de vendre ma boîte. Et ça, c'est pas possible, c'est le travail d'une vie, c'est peut-être quelque chose qu'on va transmettre soit à ses cadres, soit à ses enfants. Et donc comment rassurer par rapport à ça? D'abord, il y a tout un tas d'acteurs en fonds d'investissement ou en sociétés d'investissement qui interviennent que de façon minoritaire.
Oui.
Et ça, c'est assumé parce que pour nous, en fait, ça doit rester la vision, le leadership d'un chef d'entreprise et de cadre dont c'est l'entreprise. Si demain, c'est le sentiment que ça n'est plus leur entreprise, mais ceux de financiers, c'est pas le même engagement, c'est pas la même création de valeur.
Ça, faut pouvoir les rassurer là-dessus. C'est pas simple, Fanny, quand même. Hein. Comment est-ce que vous...
Alors, il y a des outils dits juridiques, qui sont les pactes d'actionnaires, où on va dire exactement qui a quel droit, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a la gouvernance d'entreprise aussi. Comment on décide, finalement, au sein du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des droits de veto ou pas? Mais finalement, en fait, la meilleure réassurance, c'est les alignements d'intérêts qu'on va créer. Comment on va organiser le partage de la valeur? Et nous, on sait, parce que dans l'équipe Généo, on a des gens qui ont plus de 15 ans, 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des PME ETI. On sait que finalement, en fait, donner un maximum de la valeur aux dirigeants, à ses cadres, mais aussi à l'ensemble des salariés. Et c'est ça le moteur de la croissance.
Il y a peut-être aussi un autre frein, il nous reste deux minutes, mais je voudrais en dire, il y a peut-être aussi un autre frein qui est que quand aujourd'hui je suis patron de PME, que je ne fais pas de tech, ni de biotech, ni quoi que ce soit en rapport avec la tech, j'intéresse personne finalement. Cela aussi, il faut aller les chercher. Je veux dire, même s'ils ont des business models prometteurs, comment est-ce que vous faites aujourd'hui?
Mais l'industrie, c'est formidable et on oppose souvent les startups et les ETI.
Et voilà.
Les ETI, c'est un quart des investissements en R&D en France, c'est un quart des investissements productifs, c'est ceux qui sont à la manœuvre en ce moment sur la, ce que j'appelle la triple innovation, managériale, digitale et sociétale. Aujourd'hui, en fait, les ETI sont extrêmement innovantes. Elles ont cette capacité à continuer à créer des emplois. C'est la seule catégorie qui a continué à créer des emplois pendant le Covid.
Oui.
Elles ont cette capacité à inventer aujourd'hui la façon dont elles vont se transformer. Elles sont pas nées dans l'impact, ces entreprises. Sont pour deux tiers des entreprises industrielles. Mais elles sont en train d'innover dans leurs produits, dans leurs services, dans leur business model pour demain devenir des entreprises à impact positif. Qu'est-ce qui fait leur flexibilité, leur agilité, ce caractère très familial, patrimonial, très incarné dans les territoires aussi, très ancré, qui fait un sentiment de responsabilité très fort.
30 secondes, vous êtes investi dans 22 entreprises vous, aujourd'hui 22, chez Généo, dans 22. Des domaines très variés, vous avez, ça va du...
22 en 4 ans, dans
22
des
en 4 ans.
Très variés, des sociétés de niche, la santé psychologique au travail, la digitalisation de l'hôpital, le tissu technique, protection chaleur, on peut dans tous les métiers trouver des entreprises extrêmement innovantes, extrêmement conquérantes à l'international.
Il faut pousser plein de patrons de PME qui ont, pardon de le dire comme ça, la tête dans le guidon, justement, à réfléchir. C'est pas simple pour un patron de PME de réfléchir à l'horizon de sa boîte à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans.
On est là pour eux. On est là pour eux. Il faut briser la solitude de l'entrepreneur, les aider à construire la bonne équipe, leur apporter du conseil, de l'expertise. Et en les entourant, finalement, on débloque la seule chose qu'il fallait débloquer, c'est leur rapport au risque, leur confiance en eux. Et parce que ce sont eux qui ont toutes les idées en tête, nous, on est juste là pour les aider à les exécuter.
Pour créer de nouvelles ETI, jour après jour en France. Merci beaucoup Fanny, merci de venir nous voir ce soir. Fanny Laitier, la cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir dans Good Evening Business.
Merci
à très vite, avec plaisir. 19h27, on marque une petite pause, on vous redonne les grands titres de l'actualité. Et puis on est reparti jusqu'à 20h sur cette fameuse des retraites, réforme des retraites avec le leader de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, qui est notre invité dans un instant dans Good Evening Business. A tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
19h30 sur BFM Business, Faiza Younzi nous donne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir Faiza.
Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Xavier Niel à l'assaut de la TNT, le patron d'Iliad présent dans les médias et candidat à la reprise d'une fréquence TNT. L'ARCOM recevait les dossiers aujourd'hui dans le cadre du renouvellement de celle de TF1 et M6. Eh bien, 3 ont été déposés pour la reprise de ces canaux. Évidemment, ceux de TF1 et de M6, les titulaires actuels et celui de Xavier Niel, baptisé 6. La preuve qu'il lorgne bien la fréquence de M6. Les 3 candidats vont être auditionnés le 15 février prochain. Également dans l'actualité, évidemment, la réforme des retraites présentée au Conseil des ministres aujourd'hui. Pas question de renoncer au report de l'âge de départ à 64 ans pour le gouvernement qui ouvre la porte aux discussions concernant la carrière longue. Par ailleurs, l'exécutif se prépare à sanctionner les entreprises de plus de 300 salariés qui ne publieraient pas leur index senior, baromètre qui doit permettre de mesurer leur implication dans l'emploi des plus de 55 ans. Même détermination du côté des syndicats. La CGT Énergie organise sa mobilisation contre la réforme pour les prochains jours avec plusieurs temps forts dès ce jeudi. Le syndicat veut lancer des opérations gratuites, notamment à Marseille, en donnant accès à l'électricité gratuitement pour certains commerçants, artisans, des hôpitaux ou encore des écoles. Des coupures ciblées sont également au programme. Ford veut supprimer jusqu'à 3200 postes en Europe, principalement en Allemagne, selon le syndicat allemand IG Metall. Le constructeur automobile américain va tailler dans ses effectifs administratifs et de conception et pourrait bien transférer certaines activités de développement de produits aux États-Unis. IG Metall menace le groupe de se mobiliser si ce plan se concrétise. Nouveau plan social dans la tech, cette fois-ci chez Spotify, qui va supprimer 6% de ses effectifs, soit 600 postes environ. Le numéro 1 mondial des plateformes audio souhaite mieux contrôler ses coûts alors que l'environnement économique est de plus en plus difficile. Et puis LVMH ne va pas installer son centre de recherche à Saclay, près de Polytechnique. Le géant du luxe jette l'éponge et renonce à son projet, mais pas au partenariat de recherche avec l'école. Un partenariat à 2 millions d'euros par an pendant 5 ans. Des étudiants rassemblant un collectif s'étaient vivement opposés à l'installation du bâtiment à proximité de l'école qui, elle, avait donné son feu vert. LVMH a finalement préféré opter pour un autre terrain en Ile-de-France. On jette un œil à la Bourse de Paris. Petite hausse pour le CAC 40 ce soir de 0,52%. Clôture à 7032 points.
Merci beaucoup Faiza. 19h33, c'est l'heure de la grande interview sur BFM Business.
Good Evening Business, le journal.
19h33, notre invité ce soir, c'est donc Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Monsieur Souillot, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Good Evening Business. Donc prochaine grève contre la réforme des retraites, c'est le 31 janvier prochain. Et on commence à entendre dire de plus en plus grève reconductible, c'est-à-dire que nous sommes partis derrière pour une série de jours de grève indéterminée. Est-ce que c'est comme ça que les choses se profilent, Monsieur Souillot, ou...
Alors,
c'est ce qu'on entend dire en tout cas. Donc,
les choses se profilent. Cette semaine déjà, tout un tas d'actions partout sur le territoire et dans certaines branches. Certaines branches comme l'énergie, les raffineries et les transports collectifs ont déposé des préavis. Et puis, on n'était pas là pour se compter la semaine dernière. On était là pour que le gouvernement entende et nous comprenne. On va refaire le 31 où on sera encore plus nombreux puisqu'on souhaite amplifier les choses les uns et les autres.
Oui.
Il y a toujours l'unité syndicale et elle est pleine et entière. Eh bien, si le gouvernement n'entend pas deux fois de suite, ben, il y aura certainement le blocage du pays par la grève.
Vous l'avez encore entendu aujourd'hui, l'âge légal, le relèvement de l'âge légal de départ n'est pas négociable. Le gouvernement l'a encore répété ce midi, Monsieur Dussopt, donc là-dessus ça ne bougera pas. Est-ce qu'il y a d'autres contreparties? Parce qu'on nous parle de plus en plus de contreparties, il y a cette étude d'impact et on commence à évoquer plusieurs pistes qui pourraient éventuellement vous faire changer de cap. Vous me dites c'est rédhibitoire sur l'âge légal de départ.
Légal de départ ou allongement de la durée de cotisation, il n'y a pas de contrepartie à cela.
Il n'y en aura pas.
Le salé ou le sucré, l'étude d'impact, on l'a reçu.
On va en parler,
On l'a reçu tout à l'heure.
Oui.
Bon, dedans, c'est le communiqué de presse du gouvernement pour faire passer sa réforme. Sur le reste, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Et on l'a expliqué à Elisabeth Borne depuis début octobre. Toutes les organisations syndicales.
Alors. On va parler de l'étude d'impact dans un instant. Il y a beaucoup de choses dans ce qui a été annoncé. Enfin, pas ce qui a été annoncé, mais ce qui a fuité aujourd'hui. Une question quand même sur la mobilisation. Est-ce que vous pensez avoir le temps de mobiliser véritablement? Vous connaissez le calendrier. Le texte va arriver à l'Assemblée dans quelques jours. Et le 26 mars, c'est fini. Il y a 50 jours, le 26 mars, c'est fini. Dans l'intervalle, vous avez les vacances scolaires. Est-ce que vous allez avoir le temps de créer une dynamique d'ici là? C'est quand même pas gagné.
Regardez la semaine dernière. Alors, les chiffres de la police, 1 100 000. Nous disons plus de 2 millions. Eh bien, on nous posait la même question il y a 3 semaines. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, et je reprends les propos d'Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, la résignation, l'inflation, le coût de l'énergie, là, vous n'arriverez pas à mobiliser.
Moi, je vous dis
on lui a prouvé l'inverse.
Je vous dis les vacances scolaires, je vous dis le fait qu'il y a une faible mobilisation du privé à l'heure actuelle. Je vois le télétravail qui fait que les grèves embarrassent beaucoup moins de salariés qu'auparavant. Puis je vois l'inflation, un jour de grève, ça coûte quand même. Tout ça, ça joue, non? Est-ce que ça joue pas en votre défaveur, tout ça, quand même?
Mais ça joue pas en notre défaveur. La preuve, la semaine dernière, la mobilisation, elle était massive.
Pour la première, oui, mais sur la durée. Est-ce que vous enclenchez une dynamique, là,
la deuxième, elle sera massive et déterminée. Et je vous redis ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas là pour nous compter. Nous sommes là pour faire reculer le gouvernement. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
Bon. Alors, sur l'étude d'impact qui a fuité, qui a pas été expliqué, détaillé officiellement, mais on nous dit beaucoup de choses. On dit le niveau de la pension va augmenter, on va en parler dans un instant, mais on nous dit aussi finalement, bien qu'on décale l'âge légal de départ de 2 ans, les Français vont pas travailler 2 ans de plus pour autant. On nous dit en moyenne, ça sera quoi? 6, 7, 8 mois, peut-être 9, allez, pour certains Français. Mais les Français dans l'histoire ne vont pas travailler 2 ans de plus, Monsieur Souillot. Voilà ce que nous dit l'étude en tout cas.
L'étude, elle le dit, mais elle ne prouve rien sur ce sujet. L'étude, moi, ce que je sais, c'est qu'on va tous prendre 2 ans de plus. Et d'ailleurs, parfois, quand je suis énervé parce que la communication de l'exécutif est souvent suffisante vis-à-vis de nous, on était responsable il y a 10 jours et on est devenu responsable parce qu'on s'est organisé des manifestations. Donc, on va tous prendre 2 ans ferme. Quoi qu'en dise l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est le dossier de presse de l'exécutif de l'époque.
L'âge effectif de départ à la retraite, c'est pas 62 ans aujourd'hui. On est 62 ans. Les Français partent. Alors, salariés du privé, en dehors des départs anticipés, j'entends. On nous dit c'est 63 ans et 4 mois déjà aujourd'hui, finalement. Voilà.
Aujourd'hui, c'est 63,6 mois.
Voilà. Donc, on a 63 ans et 6 mois.
Mais ça, c'est la moyenne.
Ça, c'est la moyenne privée, hors départ anticipé, j'entends.
La moyenne privée. Parce que il y a tout un tas de salariés pour pouvoir avoir une retraite complète, vont jusqu'à 67 ans.
Oui.
Et ceux-là, on n'en parle jamais. Pour ceux qui vont jusqu'à 67 ans, il y a 40% de femmes avec congé parental, maternité, garde des enfants, temps partiel imposé. 40% de salariés issus de l'immigration, à qui on ne faisait pas les papiers et les CERFA en temps et en heure, et 20% qui ont eu des accidents de la vie.
Oui.
Donc, aujourd'hui, cette moyenne, 63,6, parce que pour certains, il y avait une surcote.
Oui.
Donc, il restait. Mais si l'âge de départ est à 64 ans, ben, la surcote, c'est terminé. Aujourd'hui, la surcote, elle était à plus de 62.
Oui, oui.
Eh bien, demain...
Oui.
Ben, pas de surcote.
Il y a pas de... Alors, d'accord là-dessus. Il y a un autre point de friction, c'est le fait que celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans vont devoir cotiser non pas 43, mais 44 ans, ce qui fait évidemment grincer beaucoup de dents du côté syndical, sauf qu'on était tout à l'heure avec un député de la majorité qui nous disait « on ne reviendra pas là-dessus ». On ne décidera pas en fin de compte que ces gens-là vont cotiser 43 ans ou 44 ans parce que c'est une mesure extrêmement coûteuse. Donc dès ça, je peux vous l'annoncer, enfin à moins que vous l'ayez compris vous-même, c'est que sur ce point-là, il n'y aura pas d'avancée. Le gouvernement ne lâchera pas de lest à ce sujet.
Alors ça veut dire que dans son étude d'impact ou dans son projet, le gouvernement dit 43 ans de cotisation. Ben, pour une partie, et j'en fais partie, ben, ce sera 44 ans, peut-être même plus. Donc, on ne peut pas être d'accord avec cette réforme. Et quand le gouvernement dit il y aura plus de carrières longues, ben effectivement, hein, si on recule l'âge de départ à 64 ans, ceux qui ont cotisé avant 20 ans, ben, c'est mathématique. Alors moi, j'étais pas bon partout à l'école, mais en maths, j'étais pas trop mauvais.
Écoutez, puisqu'on parle des carrières longues, ce que disait à ce sujet Olivier Dussopt, qui persiste, lui, à dire qu'il va réparer certaines inégalités concernant les carrières. Écoutez ce que disait le ministre du Travail, Olivier Dussopt, après le Conseil des ministres aujourd'hui.
Quand il y a une manifestation, quand il y a une mobilisation, il faut savoir écouter les messages. Il faut répondre aux inquiétudes, et le projet que je présenterai tout à l'heure répond à beaucoup de ces inquiétudes, notamment sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières longues, sur le fait tout simplement de garantir la survie et l'existence dans le temps d'un système de retraite. Il y a aussi des messages que nous avons entendus dans la manifestation, et des messages auxquels il faut savoir dire quand les choses ne sont pas réalisables, quand elles ne sont pas réalistes. Quand je vois fleurir des pancartes, initiées notamment par la France Insoumise, mais par plus largement une partie de la gauche, appelant à la retraite à 60 ans. Il faut rappeler aux Françaises et aux Français que dire à la retraite à 60 ans, aujourd'hui, revenir à la retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Ça n'est juste pas possible.
Voilà, ça c'est l'autre question que je voulais vous poser. Vous êtes contre le décalage de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Est-ce que vous réclamez aujourd'hui le retour à 60 ans, monsieur Soyot, chez Force Ouvrière ?
Alors, il faut ce que l'on dit.
Avec le coût, enfin. Alors. Estimé par monsieur Dussopt à l'instant.
C'est toujours la même chose sur le coût.
Corroboré par certains think tanks, hein, voilà.
Oui, oui, certains. Et puis, en 2021 et 2022, on nous expliquait que notre système de retraite par répartition allait être déficitaire de 5 milliards. Il est excédentaire de 4. Ils se sont juste trompés de 9 milliards sur 2 ans.
Il ne le sera pas éternellement. Il ne sera pas éternellement.
Ça, c'est les prévisions.
Du
c'est
corps.
Comme la météo.
Oui, oui, oui. Ah non, non, mais... non, non, attendez. C'est moins aléatoire que la météo.
Le corps dit quoi ? Le corps dit que les dépenses sont maîtrisées et qu'il ne va pas y avoir de déficit comme on nous le prétend aujourd'hui.
Mais...
Alors, oui, il va y avoir un problème démographique en 2050 ou 2040.
Oui.
Mais parce que les gens, s'ils ne se projettent pas, ils ne font pas d'enfants. Et si on ne fait pas d'enfants, ça fait pas de cotisants, pas de nouveaux travailleurs le lendemain matin.
Je vous rétorquerai juste que le corps, il se prononce sur la base des prévisions du gouvernement en termes de croissance.
Et de taux d'emploi.
Et de taux d'emploi et de taux de chômage.
Oui, taux de chômage. Vous avez
vu qu'on nous a mis à 2027 à quoi, je crois, 5-6% de chômage.
Oui, c'est ça.
Faut y croire.
Oui.
Ce qui veut dire que si ça se trouve, la situation sera encore plus pitoyable pour le système des retraites à l'horizon de quelques années. Si ça se trouve, le corps a tort, mais il embellit la situation.
Le corps fait des prévisions. En fonction des prévisions du gouvernement sur le taux d'emploi et tout ça.
Oui.
Il y a un taux d'emploi que le gouvernement peut traiter rapidement. C'est le taux d'emploi des 55-64 ans.
Oui.
On a le plus bas taux d'emploi de l'OCDE.
C'est vrai, c'est vrai.
Et pour une fois, on ne nous compare pas aux autres. Là. Vous voyez, de temps en temps, la politique et la communication...
On se compare, parce que les chiffres font vraiment... C'est vrai que les chiffres font vraiment mal de ce point de vue-là. Je crois que le taux d'emploi, vous me confirmez, mais les 60-64 ans, on est à 35%.
Oui, c'est ça.
Mais c'est terrible. Quand vous regardez les Allemands, ils sont à deux fois... Les Allemands sont à 70% sur cette...
Non seulement c'est terrible, mais quand vous avez vu votre père ou votre mère travailler toute sa vie, qu'il termine à l'assurance chômage et quand il n'a plus de droits aux minima sociaux et pour certains voire au RSA, après pour ne pas venir parler de cohésion sociale dans la République. On s'étonne et aujourd'hui, ces gens-là et les enfants de ces gens-là manifestent avec nous. Reculer de 2 ans l'âge de départ, pour ceux qui sont déjà aux minima sociaux, ils vont y rester 2 ans de plus avec tout ce que ça implique pour eux sur leur pension de retraite. Oui. Puisque la retraite est calculée sur les 25 meilleures années pour le privé, qui sont souvent les 25 dernières si vous n'avez pas l'accident, oui, avec la progressivité des salaires, eh bien, de fait, vous faites baisser les pensions de retraite pour tous ces gens-là.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour les seniors, pour vous ? Est-ce qu'il faut des mesures plus coercitives, comme le gouvernement a commencé à l'évoquer aujourd'hui ? Sans trop rentrer dans les détails, je vous le concède. Hein.
Oui, d'accord. Alors, le gouvernement est sur l'index senior, il se fait retacler par le Conseil d'État. Quand il dépose son projet de loi, le Conseil d'État dit qu'il ne peut pas être dans le projet de loi de rectificatif de la Sécurité sociale. Donc, le gouvernement dit, on mettra ça dans une autre loi. C'est-à-dire, on fait un chèque en blanc. Sur l'emploi des seniors, il y avait tout un tas de choses qui existaient avant 1999, l'aménagement du temps de travail. Il y avait l'ARP, par exemple.
Oui.
Le départ d'un ancien pour l'embauche d'un jeune. Et puis, il y a ce que nous sommes en train de négocier en accord national interprofessionnel sur accident du travail, maladie professionnelle, pour parler de prévention. Eh bien, comment on peut prendre des seniors qui ont la compétence et l'expérience pour former les nouveaux arrivants ? Un métier un peu plus doux, moins poussé sur les charges et sur le reste,
alors
moins
justement,
pénible.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on avait ce matin le côté patronal, le président du Métis, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui faisait une proposition intéressante. Je vais vous faire écouter ça aussi en quelques secondes. Il proposait de mettre en place un système d'exonération de cotisation à partir d'un certain âge. Écoutez ce que disait Philippe Dornano ce matin sur BFM Business. Vous me direz ce que vous en pensez après.
Nous, ce qu'on plaide, par contre, c'est que lorsqu'on dépasse l'âge auquel on peut partir à la retraite, et si on veut continuer à travailler, les gens ne veulent pas continuer à cotiser. Mais si, par contre, vous leur proposez de ne plus cotiser et de toucher directement les sommes, ils peuvent être intéressés. Ça représenterait...
C'est-à-dire qu'on touche la retraite et en plus...
Vous ne touchez pas votre retraite, vous continuez à travailler, mais quand vous continuez à travailler, vous ne payez plus de cotisation chômage, puisque vous ne pouvez plus être au chômage.
Donc ça augmente votre revenu net.
Et vous ne payez plus de cotisation retraite, puisque vous ne surcotisez pas. Le résultat, c'est que vous allez gagner quasiment 10% de salaire en plus. Vous avez un avantage direct à continuer à travailler.
Voilà, Philippe Dornano ce matin, le président du Métis dans Good Morning Business. Que vous en pensez de cette proposition, Frédéric Souillot ? Pourquoi pas ? Il faut essayer ce genre de dispositif, justement, pour vaincre les a priori.
Mais pas en allégeant les cotisations. Et là, il ne parlait pas des 55-64. Il disait les gens qui seraient à la retraite et qui voudraient continuer à travailler. Ce n'est pas les mêmes.
On pousse aussi pour tout ce qui est cumul emploi-retraite. On essaye aussi de mettre en place...
Mais aujourd'hui, si vous décidez, si vous voulez rester dans votre emploi, jusqu'à l'âge de 70 ans, vous pouvez rester. Il n'y a rien qui vous en empêche et l'employeur ne peut pas vous forcer à prendre votre retraite. Maintenant, ce qu'il faut que l'on trouve, c'est... Moi, je suis... Je l'ai dit un jour à la Première Ministre, plein emploi, banco, on y va. L'emploi tout au long de la vie, mais jusqu'à la fin de sa carrière. Et à la fin, on regarde comment on aménage le temps de travail des seniors. Alors aujourd'hui, on est senior à 45 ans.
Vous vous rendez compte ? C'est normal qu'on soit senior chez Pôle emploi, on est senior à 45 ans aujourd'hui.
Et aujourd'hui, les carrières commencent à 25.
Oui.
Donc, on a une carrière pleine pendant 20 ans. Alors 45 ans, c'était l'âge pour l'entretien, pour regarder formation professionnelle, évolution dans l'emploi et tout cela. Bon, moi j'ai 55 ans depuis le 15 septembre et je me sens très très bien. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, il y a des métiers qui sont plus pénibles, plus usants. Eh bien, il faut regarder comment est-ce qu'on aménage les fins de carrière de ces seniors, mais surtout qu'on oblige les entreprises à les garder en emploi.
Oui. Puisque vous parlez de la pénibilité, j'ai une question, parce qu'apparemment, il y a un point de divergence entre vous et le gouvernement sur le fait de pouvoir certes bénéficier des mesures de pénibilité moyennant une visite médicale, dont vous ne voulez pas, vous, absolument.
Ah bon ?
Il paraît que vous ne voulez pas de la visite médicale. On vous a dit, les syndicats ne veulent pas de la visite médicale, justement.
D'accord.
Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors, d'abord, sur critère de pénibilité.
Il n'y a pas pour vous besoin de passer une visite médicale. On doit pouvoir bénéficier des mesures de pénibilité.
Pénibilité, Je rappelle que les critères de pénibilité, c'est le quinquennat précédent, la même majorité qui les avait retirés.
Oui.
Sur port de charge.
Ça a été fait sous François Hollande et.
Bruit. Non, oui. Non, le quinquennat précédent.
Oui, oui. Mais ça a été fait, ça avait été instauré sous le quinquennat de François Hollande.
Oui, voilà. Oui, oui. Mais, bon. Et aujourd'hui, on nous dit pénibilité, visite médicale. Alors, les organisations syndicales disent pas qu'elles ne veulent pas de la visite médicale. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est un socle commun pour la pénibilité, pour vous comme pour moi, quels que soient nos métiers. S'il y a port de charge, vibration, horaire décalé, tout ça. Et après, on a expliqué aussi à la Première Ministre et au Ministre du Travail, il les fait faire par qui, ces visites médicales? Il y a de moins en moins de médecins du travail.
C'est vrai.
Donc, alors, on va créer de l'emploi, mais cette information-là sur visite médicale, le temps des études, il ne va pas y avoir de génération spontanée. On est parti pour 7 ans. Donc, il faut faire des propositions qui soient cohérentes. On nous dit qu'il y aura déficit, qu'on veut garder les seniors dans l'emploi, mais on pourra voir ça pour la pénibilité d'ici 7 ans.
Elles ont été retirées, ces mesures de pénibilité, parce que tout le monde considérait que c'était une usine à gaz. Vous craignez pas le retour d'une usine à gaz et qu'à l'arrivée, on n'arrive pas à mettre en place...
Ben justement, il ne faut pas d'usine à gaz.
Ouais, mais on allait un peu vers ça à l'époque. Quand même.
Ben on va vers ça à chaque fois qu'on ne veut pas aboutir à quelque chose. On complexifie parce que les employeurs, suivant les branches, en veulent ou en veulent pas. L'exécutif dit mais... Est-ce que ça convient à notre majorité? Et nous, les organisations syndicales, on pense au travail et aux travailleurs. On regarde les choses dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, vous avez remarqué qu'on est revenu sur pénibilité aujourd'hui.
Oui.
Parce qu'à un moment, en termes de sémantique, on disait « Ah ben non, le travail n'est pas pénible ». Alors on parlait d'usure au travail. Alors on l'appelle comme on veut. Mais c'est bien la pénibilité au travail. Et il faut travailler sur la prévention et non plus sur la réparation. Pas que sur la réparation. Maintenant, parler de prévention, comme l'a dit le ministre du Travail, alors qu'il vient de retirer 0,1 de cotisation patronale sur accident du travail, maladie professionnelle, pour faire un swap,
pour le mettre, pour atténuer,
Pour dire aux employeurs, vous aurez une surcotisation, mais je vous l'enlève de là et je vous la remets là.
Pour dire, parce qu'on cherche du travail, c'est une réforme avant tout pour faire des économies, pour aller trouver de l'argent. Donc entre le gouvernement qui dit, nous faisons cette réforme qui va nous rapporter 17,7 milliards par an à horizon 2030, et vous qui me dites le vrai sujet, l'un des vrais sujets, c'est aussi la formation,
c'est l'emploi.
La vie, c'est l'emploi. Oui, on en revient toujours à la même conclusion, on cherche de l'argent aujourd'hui. Monsieur Souillot, on cherche de l'argent, voilà.
Eh bien, si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Hervé Lorenzi.
J'ai cru que vous allez me relancer sur les milliardaires, moi.
Non, c'est pas mon style. 10 points les 55-64 ans, ça fait 50 milliards en 2030. Et là, on parle pas de 17 ou 18, parce que ce que dit le gouvernement, là, sur 18 milliards, il oublie de dire... qu'il va y avoir une partie de ces milliards qui ne seront plus sur retraite, mais il y en aura 4 milliards qui seront sur assurance chômage, parce que ceux qui n'ont plus d'emploi ou qui devront attendre encore plus longtemps, ce sera assurance chômage. Une partie sur... Quand vous êtes en maladie, longue durée ou invalidité, 62 ou 64 pendant 2 ans, vous allez rester à la maladie et la validité, et là, ce sera la sécurité sociale qui va le régler. Donc, ce sera 18 milliards sur les caisses de retraite, mais au bout du bout, dans le budget de notre protection sociale collective, il va rester combien? Donc, l'emploi, et je redis sur plein emploi banco, mais pas n'importe quel emploi.
Pas n'importe quel emploi, évidemment.
Temps plein, voilà, 35 heures par semaine.
Est-ce qu'il nous reste une grosse minute? Est-ce que vous dites que le non-dit absolu dans toute cette histoire, c'est que ça ne sera pas la DRDDR? Et que dans 10 ans, finalement, on y reviendra à cette réforme des retraites, quoi qu'il arrive.
Je pense que celle-ci sera pas la DRDDR parce que c'est un choix politique.
Parce qu'il n'y a pas de vision.
Elle n'est pas justifiée financièrement. Économiquement, c'est pas justifié. Aujourd'hui, c'est un choix politique. Je serai celui qui aura reculé l'âge de départ à la retraite. Point. Eh bien, nous, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
Bon. Vous avez quelques semaines pour faire vos preuves et faire plier le gouvernement. On rappelle, le texte arrive à l'Assemblée dans quelques secondes. Ça commence la semaine dernière. Et tout sera terminé le 26 mars, puisque les débats s'arrêtent au Parlement. Et on peut considérer qu'après, il y aura des mobilisations. Donc vous avez quelques semaines encore, 2-3 journées. Et ça va se jouer notamment le 31 janvier prochain, finalement.
Et peut-être que ce ne sera pas voté le 26 mars.
Vous pensez que ça ne sera peut-être pas voté?
Vous
comptez
peut-être
sur la France insoumise et l'opposition pour faire de l'obstruction et pour...
Mais aujourd'hui, il y a
l'obstruction constructive. Hein, attendez.
Non, mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette réforme des retraites.
Oh, apparemment les choses, mais on est bien emmanché du côté des LR. Enfin, en tout cas, on essaie d'aller
peut-être,
chercher des voix. Mais
peut-être. Je n'en sais rien. Mais ma grand-mère avait coutume de dire qu'on compte pas les œufs dans le cul des poules.
Eh ben voilà, c'est exactement l'expression qui s'impose. Débat au Parlement et la parole à la rue à partir du 31 janvier, peut-être les jours suivants. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci, Guillaume.
Merci beaucoup d'être passé nous voir, le secrétaire général de Force Ouvrière avec nous ce soir sur BFM Business, 19h53. On marque une petite pause et puis dans un instant, c'est François Sorel qui nous rejoint bien sûr à partir de 20h pour Tech & Co. Et nous, on se retrouve bien sûr avec plaisir demain à 18h. Good Evening Business pour de nouvelles aventures avec Audrey Tcherkov. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM. À demain.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.